Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
On s'était ennuyé de lui, il est de retour. Patrick Derry, qui est chroniqueur ici à Cube et qui est analyste en politique publique, il est de retour. Bonjour Patrick.
Bonjour Sophie.
Écoute, le gouvernement de la CAQ qui investit 98 millions dans une entreprise de granit, il y a juste toi pour prendre ce sujet-là et rendre ça passionnant. Alors, je te laisse aller, Patrick. Bon. J'ai toute confiance en toi.
Bon, écoute, je vais essayer de faire mon possible. Écoute, c'est Monsieur Fitzgibbon, on le sait, dans le gouvernement de la CAQ, sont très forts sur le développement économique au Québec. Un développement économique qui est très interventionniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État dirige, même si c'est dirigiste, hein, l'État tente de diriger l'économie. Et le dernier coup de M. Fitzgibbon, c'est un investissement de près de 100 millions dans une entreprise qui s'appelle Polycar, qui fabrique du granit. Il y a des carrières là ici et ailleurs aussi en Amérique. Et par où commencer? Il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, les rendements de l'État comme investisseur sont historiquement pitoyable. Tu sais, la comparaison que j'aime utiliser, là, c'est que c'est moins bon que des singes aveugles qui lancent des dards pour choisir leurs actions affichées sur un mur. Autrement dit, l'État comme investisseur, il est moins bon que le hasard. Pourquoi? Parce que il y a toutes sortes de considérations, notamment des considérations politiques, et aussi parce que c'est difficile, l'investissement. C'est difficile, là. C'est les gestionnaires de fonds là, qui vont, par exemple, travailler pour toi et moi. C'est une minorité qui bat le marché. Parce qu'il y en a, il y en a qui réussissent, qui ont beaucoup de succès, puis les autres, ben, ils le battent pas. Et fait, donc, en partant, c'est difficile. Mais si, en plus de ça, c'est des gens qui, c'est leur travail à temps plein, là. Quand tu prends un politicien, que lui, ben, il est dans d'autres choses, puis il y a des considérations politiques, ben là, des problèmes. Évidemment aussi, ça soulève des questions comme le favoritisme, c'est-à-dire qu'il y a d'autres entreprises qui fabriquent aussi du granit. Là, il y en a une autre, Granicar, qui est dont le propriétaire, Alain Robitaille, se demandait dans les pages du Journal de Montréal cette semaine, mais pourquoi j'en ai pas eu de subvention? Pourquoi?
Ben, excellente question, ben oui.
Hein?
J'ai dit excellente question, parce que ce qu'on veut éviter, c'est le copinage, parce que pourquoi cette entreprise-là plutôt qu'une autre, s'il y a des liens de près ou de loin avec des petits amis au pouvoir, ben c'est là qu'on se met à capoter, excuse-moi l'expression là.
Ben oui, parce que ce qui arrive, c'est que c'est très difficile de choisir quelle entreprise qui a un bon plan d'affaires, quelle entreprise qui va réussir, quel nouveau procédé. C'est sûr que des entreprises, à un moment donné, ils ont grossi, ils ont eu un certain succès, mais il y a des nouvelles entreprises qui peuvent arriver après ça par en dessous, qui eux développent des nouveaux procédés, puis c'est ça qui va être bon plus tard. Mais si tu favorises ceux qui sont en place, par exemple, bon, évidemment, il y a la question du favoritisme, mais tu peux empêcher l'innovation. Puis là, ça soulève des questions de transparence aussi, parce que on sait pas trop sur quelle base M. Fitzgibbon a choisi cette entreprise-là, mais là, il s'est fait poser des questions sur ses liens avec le propriétaire de l'entreprise. Puis il dit, il a reçu un coup de fil, il a parlé 45 secondes il y a 3 ou 4 mois.
Donc, on est obligé de le croire sur parole.
Ça fait bizarre quand même un peu. Et depuis le début de la pandémie, il y a eu beaucoup de subventions qui ont été accordées aux entreprises. Il y en a, c'est dans des programmes qui étaient, je dirais, relativement transparents, avec des critères qui étaient objectifs, notamment du côté fédéral. Mais il y en a d'autres qui étaient plus discrétionnaire, c'est-à-dire là où le gouvernement ciblait différentes entreprises pour décider de les aider. Et ça a été relayé à plusieurs reprises dans les médias. Et les critères n'ont pas été dévoilés par le ministère de M. Fitzgibbon. Fait qu'encore là, on ne sait pas trop comment c'est choisi, pourquoi c'est choisi. Et M. Fitzgibbon, lui, il vante de connaître tout le monde. Il a déjà dit ça, là. On peut pas me reprocher de connaître des gens puis d'investir dans des entreprises où je connais des gens parce que je connais tout le monde. Là, je rappelle que c'est fait taper sur les doigts par...
Ah oui, à plusieurs reprises.
C'est un abonné. Là. Je pense que ça fait 4 fois. Même la première fois, c'était gênant. Donc, même le premier ministre et le parti au pouvoir, le parti de M. Fitzgibbon, ont endossé la tape sur les doigts, mais quand c'est devenu à répétition, par exemple, on l'a fait un petit peu moins souvent. Et, ben, M. Fitzgibbon, il connaît effectivement beaucoup de gens, mais le problème, c'est que ce qu'il connaît pas, il connaît pas. Et moi, j'ai déjà eu des discussions avec des gens qui étaient impliqués dans d'autres projets, qu'il tentait de faire valoir. Et là, ce qu'on dit à ce moment-là, c'est essayer de remonter jusqu'au ministère pour se faire entendre. C'est pas nécessairement facile. Et là, si justement le critère, c'est connaître un peu, puis c'est, tu sais, le ministre, on peut l'imaginer à côté d'un téléphone, puis dire, mais moi, je décroche, j'achète, je vends, et ainsi de suite, ben, il va favoriser, donc, les entreprises qui réussissent à faire du lobbyisme, qui réussissent, ce qui est légal, là, mais qui réussissent à se rendre à eux. Fait qu'à place d'avoir une économie où des solutions vont émerger selon les besoins des consommateurs, selon les transactions avec les entreprises ici et ailleurs, les meilleurs modèles d'affaires, ben là, on se base sur des critères discrétionnaires. Puis, je veux juste rappeler que le Québec, c'est, à l'exception de la Saskatchewan à cause des subventions agricoles, le Québec, c'est la province qui octroie le plus de subventions par
Ça, c'est intéressant. Okay? Ça, c'est intéressant. Mais je veux revenir sur quelque chose. Oui, je veux revenir sur quelque chose que tu as dit au tout début. C'est que tu dis que, par les années passées, l'État est un mauvais investisseur. C'est-à-dire que ses rendements sont pas très bons, ils sont même pitoyables. Donc, en fait, ta chronique devrait s'arrêter là. C'est-à-dire que quand toi et moi, on place l'argent dans nos REER, ben, si, mettons, si on a investi 1 000 $, c'est parce qu'on veut que l'année prochaine, il y ait 1 100 ou 1 200 $ dans notre compte. Pourquoi le gouvernement agirait différemment? Parce que c'est notre argent qu'il investit. Donc, si ses rendements sont pas bons, soit qu'il se trouve des meilleurs conseillers financiers, qu'il fasse des meilleurs investissements, ou qu'il arrête d'investir. Je sais que ça peut peut-être avoir l'air simpliste, mais si c'est pour faire des mauvais investissements, pourquoi il continue à être aussi aveugle?
Ben là, c'est ça. Là, il y a d'autres arguments. Là, on parle, par exemple, des fois, on parle des sièges sociaux. On parle aussi de protéger nos entreprises, les garder ici. Mais c'est pas un bon argument non plus, là, en soi. En tout cas, moi, je trouve que c'est un argument qui est faible. Mais même si on considérait que l'argument, il était valable, c'est-à-dire que, tu sais, des entreprises, là, ça part puis ça vient, là. Fait que c'est normal. Il y a un jeu, on accepte la concurrence. Nous, on a des entreprises, à un moment donné, qui acquièrent des entreprises à l'étranger. Fait que des fois, c'est le contraire qui arrive aussi. Mais ça donne que le Québec, du côté, justement, des mouvements des sièges sociaux des entreprises, c'est un prédateur. Le Québec acquiert plus d'entreprises qu'il ne vend d'entreprises. Ça, c'est ça a été démontré à quelques reprises, là, puis je pense pas que la tendance a changé depuis un an. Donc, même de ce côté-là, c'est pas correct. Mais moi, je reviens aussi. Ultimement, le but, c'est ça, tu l'as dit, c'est de nous enrichir. Mais on a une économie qui subventionne le plus au pays, mais c'est où que le revenu par habitant est le plus bas ou l'avant-dernier plus bas au pays, c'est au Québec aussi. Fait que ça, c'est l'autre chose. C'est-à-dire qu'on a des politiques économiques qui se distinguent par un interventionnisme qui est très, très, très fort. Mais d'un autre côté, on en récolte pas les fruits parce que le revenu disponible par habitant, on fait une course en gros avec l'Île-du-Prince-Édouard pour le dernier rang. Là, des fois, c'est l'Île-du-Prince-Édouard qui est en arrière. Des fois, c'est nous autres. Le Nouveau-Brunswick qui est pas loin. Et ça, malgré des positions très avantageuses du Québec. Fait que, tu sais, quand tu regardes ça dans l'ensemble, là, ça fonctionne pas très bien. Ceci dit, moi, je suis pour aider des entreprises. Mais faut le faire d'une autre façon.
Il faut le faire de façon à ce que ce soit avantageux, pas juste pour l'entreprise elle-même, mais pour l'ensemble des Québécois. C'est toujours ça qui devrait être le principe qui nous guide. Écoute, Patrick, si tu permets, on va passer à ton deuxième sujet qui est assez intéressant. Après le panier bleu et les espaces bleus, le sport bleu, donc ce fameux rapport du gouvernement qui dit ben il faut sauver le soldat hockey, appelons-le comme ça.
Très critiqué
ce rapport-là, puis l'idée qu'il faut qu'il y ait plus de jeunes Québécois qui jouent au hockey, au lieu de dire ben finalement il faut qu'il y ait plus de jeunes Québécois qui fassent du sport de façon générale.
Ben c'est ça là, tu sais, c'est là le gouvernement commande un rapport à des hockeyeurs, des gens qui ont été impliqués dans le hockey, puis de façon surprenante, ils recommandent que le hockey devrait être encore plus valorisé. Je caricature, mais tu sais, c'est un peu ça. Et là, on se sent à chaque fois presque obligé de donner nos états de service. Tu sais, moi, j'aime ça le hockey. J'ai joué au hockey, j'ai joué plus de 1 500 matchs de hockey dans ma vie d'adulte. J'ai 3 opérations au genou pour en témoigner, une fracture du poignet. Des côtes fêlées, pas tout en même temps, là, mais je veux dire, c'est ça le bilan. Puis, je veux dire, je suis assez nono pour continuer à jouer. Je suis plus capable de jouer sur la glace, mais je continue à jouer au deck hockey. Mon garçon, est inscrit au hockey, il adore ça. Puis je veux dire, je vais aller traîner dans les arénas aussi longtemps que qu'il va vouloir le faire. Bon, maintenant, une fois que c'est dit, il y a d'autres sports au Québec. Il y a d'autres sports au Québec.
Oui.
D'abord, le hockey, ça coûte cher. Bon, on veut faire baisser les prix, mais là, commencer à subventionner le hockey pour l'ensemble de la population, ça me semble complètement irréaliste. Les infrastructures, c'est compliqué. La saison des patinoires extérieures est en train de raccourcir constamment, mais au-delà de ça, là, il y a des gens qui aiment ça faire autre chose aussi. Ça fait des années que le soccer est plus populaire que le hockey chez les jeunes. Il y a environ deux fois plus de gens qui sont inscrits au soccer récréatif qu'au hockey. C'est à peu près 200 000 contre
entre autres,
90 000 dedans.
Oui, entre autres, un résultat de l'immigration aussi quand même. Il y a beaucoup d'immigrants, qu'on pense à l'Amérique latine, qu'on pense au Maghreb, ou dans des pays dont ces gens-là sont originaires, où le soccer, le football, pour pas le nommer, est le sport national. Donc, ça se reflète aussi sur nos terrains, là.
C'est sûr que c'est en partie ça, mais tu sais, c'est aussi, je rappelle, deux fois plus inscrit au soccer qu'au hockey. Fait que ça veut dire des deux souches là, qui jouent au soccer. Là,
oui, oui.
Il y en a un méchant paquet. Il y a plein de raisons pour ça aussi. Parce que
ben oui, mais c'est que c'est pas compliqué. T'achètes un ballon, puis c'est ça.
Et voilà. Puis c'est le fun aussi. C'est un beau sport. D'ailleurs, il y a des habiletés qui sont transférables du soccer au hockey. Fait qu'il y en a qui en font un l'hiver, puis qui font l'autre l'été. Mm-hmm. Et moi, je regarde ça plus loin. Le plus je comprends là, que M. Legault et son entourage sont dans la québécitude poussée. Tu sais, le panier bleu, puis les espaces bleus pour les musées, puis là, t'as le sport bleu. Et moi, je commence à trouver qu'on délire bleu. On a un problème au Québec, effectivement.
C'est très drôle.
On peut continuer avec la pilule bleue puis la matrice, mais on a, dans toutes les sociétés occidentales, un problème avec l'activité physique chez les jeunes en raison des écrans, puis en raison du temps perd, les parents, entre autres, qui ont fait moins de sport nous-mêmes. Moi, l'idée de dire on va avoir plus de sport à l'école, c'est correct. Personnellement, l'éducation physique, j'en ferais bien plus qu'un ou deux cours par semaine. Il pourrait en avoir tous les jours. On peut réaménager les horaires. On peut changer la composition des cours aussi, qui est souvent axé trop sur les règles des jeux. À un moment donné, simplifiez les règles, faites jouer, faites l'habitude du sport. Toutes des choses comme ça qu'on peut faire, mais commencez à rendre les cours de patinage obligatoires à l'école. Là, j'ai comme l'impression, je sais pas, la comparaison, tu vas peut-être la trouver boiteuse, mais tu sais, je pense à la Chine à un moment donné qui a décidé, là, tu sais, pour arriver sur la scène mondiale, entre autres, là, de faire des espèces d'usines à athlètes olympiques, là, puis je sais qu'on s'en va pas jusque dans ce terrain-là, là, mais l'objectif du gouvernement Legault, il l'a dit, M. Legault, il trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de Québécois dans la Ligue nationale, sur l'équipe olympique. Il parlait de la composition aussi de l'équipe nationale féminine. Là, c'est quoi? On va mettre tout un programme en marche pour arriver pour dire, hey, on est passé de 3 à 6 joueurs, par exemple, sur l'équipe olympique. C'est quelque chose qui est... écoute, il y a quelque chose d'un petit peu surréel là-dedans.
Ouais. Et ben tu sais, on sait, tu viens de parler de cette espèce de nationalisme de la CAQ. S'ils veulent vraiment être nationalistes, qu'ils commencent donc par être super sévères avec la loi 96, par imposer la loi 101 au Cégep. Il y a toutes sortes d'autres façons d'être nationaliste, pas seulement par le biais du hockey. Je pense qu'il nous reste un petit peu de temps. Écoute, tu voulais parler de l'intervention que François Legault a faite. Il est allé à l'émission La soirée est encore jeune à Radio-Canada. Qu'est-ce que tu penses de quand un politicien s'en va à la télé ou à la radio puis qui dit des âneries, des fausses informations puis qu'il y a personne pour le reprendre?
Ben c'est ça le problème. Puis là, c'est pas contre La soirée est encore jeune, là, tu sais, l'entretien en fait avec M. Legault, c'était drôle, il était en forme, il a le sens de la répartie, M. Legault. Mais il a dit deux choses à un moment donné. Il a dit que quand tu es infecté avec le variant Omicron, après ça, tu es correct pour 4 à 5 mois. C'est-à-dire que t'es protégé contre une nouvelle infection.
Et on immunisé, sait
que c'est
ouais.
absolument pas vrai. Des infections, il y en a dans 2 mois, il y en a dans 2 mois même. Donc, c'est complètement faux. Puis pourquoi? Parce qu'il y a plein de sous-variants Omicron. Puis finalement, Omicron, au départ, le problème, c'est que la façon dont il a muté, il évade facilement l'immunité vaccinale, mais aussi l'immunité naturelle qui est conférée par l'infection. Puis en plus, les sous-variants se succèdent. Ça, c'est la première chose. L'autre chose qu'il a dit, il a été questionné sur le projet de troisième lien, puis il dit, écoutez, c'est un projet essentiellement pour le transport en commun de centre-ville à centre-ville. Hey, la dernière version du projet, ils ont enlevé les voies réservées aux transports en commun qui vont être là seulement à l'heure de pointe. Donc, c'est un projet autoroutier. C'est ça que c'est le troisième lien. C'est un projet pour les voitures. Maintenant, tu peux décider de faire ça, puis tu peux le défendre politiquement. Puis peut-être que tu vas avoir un certain succès. Mais la responsabilité, puis là, c'est long. Je parle de cet exemple-là, mais ça vaut aussi dans les conférences de presse. Quand il y a quelque chose qui est dit, qui est factuellement faux, puis là, je parle pas d'opinion, je parle de factuellement faux.
Oui.
On peut avoir des idées différentes, fédéralistes, souverainistes, ainsi de suite, la protection de la langue, comment on le fait, on fait plus défensif, plus pensé pour la promotion, tout ça, ça se défend. Mais quand c'est factuellement faux, tu as un devoir, comme communicateur, comme journaliste, de dire « Hey, ça, c'est pas vrai ». Le problème, c'est que ça te rend désagréable. Évidemment, dans une émission qui est axée sur l'humour, ça peut vraiment casser le parti. Moi, je pense qu'il faut pas lâcher le morceau. Mais c'est vrai aussi pour les conférences de presse. Combien de fois qu'on a entendu des représentants du gouvernement de la santé publique dire « Ah, c'est pas vrai que les N95 protègent plus que le masque chirurgical. » Ça devrait être talonné chaque fois.
Ben oui,
chaque fois, il y a des choses qui sont pas vraies. Parce que sinon, c'est le spin qui passe. Puis après ça, ben c'est sûr que les gens sont mélangés parce qu'ils disent « Ben regardez, le premier ministre le dit, c'est ça. Le directeur
de santé publique le dit, c'est ça. » Puis il n'y a personne qui l'a interrompu pour dire que c'était une fausseté. Je te dirais simplement, à propos de la soirée est encore jeune, c'est pas comme si c'était la première fois qu'il y a des choses qui se disaient en ondes à la soirée est encore jeune et qu'il n'y a personne pour les reprendre. On me chuchote à l'oreille, je sais pas si c'est vrai, que ces animateurs-là ont passé des années à casser du sucre sur mon dos, sur le dos de Richard, sur le dos de Mathieu Bock-Côté, de la pire des façons, semaine après semaine après semaine après semaine. Quelque chose qui ressemblait peut-être à de l'acharnement. Alors, tu me permettras de conclure cette chronique en disant que c'est pas la première fois à la soirée étant encore jeune qu'on disait des niaiseries. Merci beaucoup Patrick Derry, analyste en politique publique. À la prochaine chronique.
Merci Sophie, bonne journée.